Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le studio Jean-Orsi de Radio Nîmes avec l'accent 92.2 sur les ondes ou radionimes.fr sur internet, mais toujours évidemment Radio Nîmes avec l'accent, pour une nouvelle émission de Cap à Nîmes, l'émission mensuelle qui donne la parole aux personnes en lien avec le handicap. Une émission également musicale qui est présentée par Bernard Mouret tous les premiers lundis du mois. L'émission est rediffusée le troisième lundi du mois et sera disponible le plus rapidement possible en podcast sur le site internet de la radio. Alors aujourd'hui, nous évoquons l'association, alors je vais le lire pour ne pas dire de bêtises, c'est l'Association régionale pour l'intégration et l'éducation des déficients auditifs. Pour découvrir cette association, nous serons accompagnés par Marianne Le Floch-Bazin, orthophoniste ressource CESAD Arrieda, Guillaume Valls, psychologue coordinateur CESAD Arrieda, et Julie Carlo, éducatrice fonctionnelle CESAD Arrieda. Et je vais leur demander à chacune et chacun de se présenter. On commence à ma droite.
Oui, bonjour, je suis Julie Carlo. Donc je suis éducatrice fonctionnelle à l'Arrieda depuis 28 ans maintenant. Et je ne sais pas, est-ce que je me présente déjà ce que je fais au sein de l'Arrieda
ou... Non, peut-être juste voilà, vous présenter voilà. Votre lien avec le handicap. Donc voilà. Vous êtes depuis combien de temps
28 ans à l'Arrieda et j'ai découvert la surdité et les enfants malentendants et sourds à Paris, là où j'habitais avant, dans un lycée, un collège pour malentendants.
Alors moi, bonjour, Marianne Le Floch-Bazin, orthophoniste ressource à l'Arrieda. Pourquoi ressource ? Parce que en fait, je n'ai plus moi de travail auprès des jeunes directement. Ce sont d'autres collègues qui sont en relation avec moi et qui s'occupent de ces enfants. Et moi, je sers de ressource un peu à la fois pour mes collègues orthophonistes, mais aussi pour mes collègues éducateurs fonctionnels, mes collègues psychologues. Et je suis à l'Arrieda depuis 25 ans maintenant.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Valls, psychologue coordinateur au CESAD de l'Arrieda. Depuis une vingtaine d'années, je travaille à la fois sur l'Hérault, le Gard et la Lozère. Et ma connaissance de la surdité, elle s'est faite par mon parcours de jeune lycéen. J'ai rencontré une camarade qui était sourde profonde et qui était la fille d'un des fondateurs de l'Arrieda. À l'époque, je ne connaissais pas tout ça, bien sûr.
Je vous propose une première rencontre avec Grand Corps Malade.
C'était sur une grande route, je marchais là depuis des jours. Voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient. Un chemin un peu bizarre, un peu tordu, comme la vie. Évidemment, j'étais pas tout seul, j'avais envie de faire connaissance. Il y avait un tas de personnes et personne marchait dans le même sens. Alors je continuais tout droit, mais un doute s'était installé. Je savais pas ce que je foutais là, encore moins où je devais aller. Mais en chemin, au fil du temps, j'ai fait des sacrées rencontres. Des trucs impressionnants, faut absolument que je vous raconte. Ces personnages que j'ai croisés, c'est pas vraiment des êtres humains. Tu peux parler avec eux, mais jamais leur serrer la main. Tout d'abord, sur mon parcours, j'ai rencontré l'innocence. Un être doux, très gentil, mais qui manque un peu d'expérience. On a marché un petit moment, moins longtemps que ce que j'aurais cru. J'ai rencontré d'autres éléments et l'innocence a disparu. À un moment sur mon chemin, j'ai rencontré le sport. Un mec physique, un peu grande gueule, mais auprès de qui tu deviens fort. Pour des raisons techniques, on a dû se quitter, c'était dur. Mais finalement, c'est bien comme ça, puis le sport, ça donne des courbatures. J'ai rencontré la poésie, elle avait un air bien prétentieux. Elle prétendait qu'avec les mots, on pouvait traverser les cieux. Je lui ai dit, je t'ai déjà croisé, et franchement, tu vaux pas le coup. On m'a parlé de toi à l'école, et t'avais l'air vraiment relou. Mais la poésie a insisté, et m'a rattrapé sous d'autres formes. J'ai compris qu'elle était cool, et qu'on pouvait braver ses normes. Je lui ai demandé, tu penses qu'on peut vivre ensemble, je crois que je suis accro. Elle m'a dit, t'inquiète, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Puis j'ai rencontré la détresse, et franchement, elle m'a saoulé. On a discuté vite fait, mais rapidement je l'ai refoulé. Elle a plein de certitudes sous ses grands airs pleins de tensions. Mais vous savez quoi, la détresse, elle a pas de conversation. À un moment sur ma route, j'ai rencontré l'amour. Je lui dis tiens, tu tombes bien, je veux te parler depuis toujours. Dans l'absolu, t'es une bonne idée, mais dans les faits, c'est un peu nul. Tu pars en couille une fois sur deux, faudrait que tu retravailles ta formule. Amour m'a dit, écoute petit, ça fait des siècles que je fais mon taf. Alors tu me parles sur un autre ton si tu veux pas te manger des baffes. Moi je veux bien être gentil, mais faut que chacun y mette du sien. Les humains ne font aucun effort et moi je suis pas un magicien. On s'est embrouillé un petit moment et c'est là que je me suis rendu compte que l'amour était sympa mais que quand même il se la raconte. Puis il m'a dit qu'il devait partir, il avait des rendez-vous par centaines. Et ce soir il devait dîner chez sa demi-sœur, la haine. Avant de partir j'ai pas bien compris, il m'a conseillé d'y croire toujours. Puis s'est éloigné sans se retourner, c'était les derniers mots d'amour. Je suis content de l'avoir connu, ça je l'ai bien réalisé. Et je sais qu'un de ces quatre on sera amené à se recroiser. Un peu plus tard sur mon chemin, j'ai rencontré la tendresse. Ce qui reste de l'amour derrière les barrières que le temps dresse. Un peu plus tard sur mon chemin, j'ai rencontré la nostalgie. La fiancée des bons souvenirs qu'on éclaire à la bougie. Assez tôt sur mon parcours, j'avais rencontré l'amitié. Et jusqu'à ce jour, elle marche toujours à mes côtés. Avec elle, je me tape des barres et on connaît pas la routine. Maintenant c'est sûr, l'amitié, c'est vraiment ma meilleure copine. J'ai rencontré l'avenir, mais il est resté très mystérieux. Il avait la voix déformée et un masque sur les yeux. Pas moyen de mieux le connaître, il m'a laissé aucune piste. Je sais pas à quoi il ressemble, mais au moins je sais qu'il existe. J'ai rencontré quelques peines, j'ai rencontré beaucoup de joie. C'est parfois une question de chance, souvent une histoire de choix. Je suis pas au bout de mes surprises, là-dessus y'a aucun doute. Et tous les jours je continue d'apprendre les codes de ma route. C'était sur une grande route, je marchais là depuis des jours. Voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient. Un chemin un peu bizarre, un peu tordu, un peu comme la vie.
Retour dans le studio Jaurcy de Radio Nîmes avec l'accent et je suis en très bonne compagnie pour évoquer cette très belle institution qui est l'Arrieda. Alors est-ce qu'on peut peut-être évoquer sa naissance, son histoire ?
Alors la naissance de l'Arrieda se fait grâce à un collectif de parents. En 1975, il y a une loi d'orientation pour les handicapés qui est parue et qui permet la création de CESAD, c'est-à-dire de services d'éducation spécialisés et de soins à domicile. Et un collectif de parents qui en avait marre, soit de déménager pour aller habiter proche d'un établissement spécialisé ou de mettre leurs enfants en internat pour qu'ils aient une scolarité adaptée, ont décidé, avec l'appui et le soutien du professeur François Dejean, qui était le chef de service du service ORL de l'époque, de créer un CESAD qui permette l'inclusion de leurs enfants dans l'école à côté de chez eux. Vraiment une inclusion à côté de chez eux. Et donc, ils ont créé l'Arrieda en 1982. Voilà, avec un fonctionnement un petit peu particulier que Guillaume va vous décrire. Et par la suite, après la création de ce pôle enfant, ça a créé des besoins, si vous voulez, et petit à petit, le pôle adulte s'est créé avec différents services, ainsi qu'un pôle formation pour l'apprentissage de la langue des signes.
L'organisation de l'Arrieda se fait suivant deux gros principes. Deux gros principes donc au niveau de l'organisation de l'Arrieda, c'est le premier, c'est que les parents sont partenaires de la prise en charge, ce qui est très important pour nous. Et puis la seconde, c'est que l'Arrieda s'étend sur l'ensemble du territoire des 5 départements, l'Hérault, le Gard, la Lozère, les PO et l'Aude. Et dans chacun de ces départements, il y a des cultures différentes, des organisations différentes. L'idée, c'est que l'Arrieda se déplace sur les lieux de domiciliation de l'enfant et de scolarisation, et qu'on va essayer de développer les ressources qui vont répondre aux besoins de l'enfant en utilisant ce que l'on trouve dans chacun des milieux naturels de l'enfant. Voilà. Et donc, les équipes de l'Arrieda pour un enfant, ça va être un psychologue ou une psychologue. On est 8 psychologues à se partager la région à l'Arrieda. Et puis, il y a des éducateurs et éducatrices qui vont faire un accompagnement dans le milieu scolaire, à la maison aussi. Et puis, des orthophonistes qui vont s'occuper de tout ce qui est rééducation du langage. Voilà. Donc on a tous un peu des appellations spécifiques, à savoir que les éducateurs et éducatrices sont des éducateurs fonctionnels qui vont cheminer selon les préoccupations de l'enfant, c'est-à-dire amener le développement de l'enfant en fonction de ce que l'enfant va rencontrer lui-même. L'éducateur va répondre à toutes ces questions. Et puis les psychologues coordinateurs, il a fallu que j'arrive à l'Arrieda pour savoir qu'on pouvait combiner ces deux fonctions. Qui est assez précieuse dans le sens où le psychologue a charge de rassembler l'ensemble des acteurs qui vont fonctionner autour de l'enfant, de créer une cohérence dans le projet pour que tout le monde aille bien dans le même sens et que l'enfant arrive à trouver du sens à ce qui se passe pour lui.
Et sur les effectifs, alors à l'Arieda, bon, là, combien il y a de psychologues, combien il y a de...
Donc je disais tout à l'heure, 8 psychologues à se partager la région, donc on a tous des secteurs un peu différents. Par exemple, je travaille à la fois sur le Gard, l'Hérault et la Lozère. Mes collègues se distribuent d'autres départements. Il y a 35, je crois, éducateurs et éducatrices, qui sont, eux, sur des secteurs beaucoup plus localisés, à proximité des jeunes. Donc les éducateurs se répartissent en équipes départementales. Et puis les orthophonistes sont les orthophonistes qui ont été choisis par les parents pour la prise en charge de leur enfant à partir du moment où ils ont appris le diagnostic de la surdité.
Effectivement, les familles arrivent à l'Arieda. Souvent, ils ont déjà leur entourage médical et paramédical et ils le gardent. C'est pour ça qu'il y a à peu près actuellement 80 orthophonistes qui travaillent en conventionnement avec l'Arieda.
Donc vous intervenez en fait auprès des enfants sourds, mais qu'est-ce que c'est exactement qu'un enfant sourd ? Qu'est-ce que la surdité ?
Ah, c'est une grande et belle question, parce que quand vous me dites la surdité, ça ne m'évoque rien du tout.
Alors les surdités ?
Voilà, ça m'évoque beaucoup plus. Hein. Si vous voulez, on va repartir peut-être de l'anatomie de l'oreille en 30 secondes. L'oreille, il y a trois parties dans l'oreille. Il y a une partie externe, on la voit bien, c'est le pavillon avec le conduit auditif. Elle s'arrête là où commence le tympan. On appelle ça alors l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, c'est ce qu'on appelle aussi la caisse du tympan. C'est une petite grotte, on va dire, avec trois osselets dedans, les plus petits os du corps. Et ça fait environ 2 cm cubes, donc c'est vraiment tout petit. Ça, ce sera l'oreille moyenne. Et ensuite, je ne vous ai pas cité les osselets, mais quasiment tout le monde les connaît. C'est le marteau, l'enclume et l'étrier, évidemment. Et l'étrier, il va aller frapper par l'un de ces bouts, ce qu'on appelle la fenêtre ovale, et qui est l'entrée de l'oreille interne, qu'on appelle la cochlée, et qui a une forme d'escargot. Voilà. Donc, en fonction du niveau d'atteinte, on n'aura pas, évidemment, la même surdité. L'oreille moyenne, ça peut être des obstructions, ça peut être quelque chose qui va gêner le conduit, ça peut être du cerf humain. L'otite moyenne, peut-être qu'avant ça, j'ai oublié peut-être quelque chose, c'est la transmission du son. Qu'est-ce que c'est le son ? Hein, le son, c'est une onde sonore, elle se déplace, elle vient frapper le tympan. À partir du moment où elle frappe le tympan, il se met à vibrer. Il met en vibration et en transmission mécanique ses petits osselets. L'étrier va appuyer sur la fenêtre ovale et dans l'oreille interne, il y a du liquide avec plein de petites cellules, avec des cils. Et le liquide, en se déplaçant, il va aller stimuler ces petites cellules qui vont créer une onde électrique, qui vont transformer cette onde mécanique en onde électrique, c'est-à-dire en un flux nerveux qui va, par le nerf, se transmettre jusqu'au cerveau. Donc, comme je vous le disais, en fonction de l'étage qui va être touché, les surdités ne seront pas les mêmes. On parlait des obstructions, des bouchons de cérumen, ça c'est réversible, on nettoie, c'est bon. Le niveau moyen, quand il y a un problème, c'est souvent qu'il y a la fameuse otite. C'est-à-dire qu'il y a du liquide, et comme il y a du liquide, eh ben, les osselets, ils n'arrivent plus trop à bouger entre eux. Et donc, du coup, la transmission mécanique n'est pas très bonne. La plupart du temps, c'est réversible aussi. Et puis, on arrive aux surdités qu'on appelle de perception, c'est-à-dire qu'ils vont toucher l'oreille interne et qui consiste en fait en des cellules ciliées qui sont abîmées. Et là, on ne peut pas y faire grand-chose, c'est pas réversible. Donc, on est obligé de procéder à un appareillage. Et si on veut, alors si on veut traiter évidemment une otite moyenne, ben on va donner des antibiotiques. Si on veut traiter une surdité de l'oreille interne, et ben on va être obligé d'appareiller en fait. Ça ne se traite pas. Donc vous voyez qu'en fonction de la localisation, on n'a pas la même surdité. Et puis on ne va pas avoir non plus la même surdité en fonction du moment où elle apparaît. Elle peut apparaître, et surtout par rapport à l'apparition du langage. Si l'enfant naît comme ça à la naissance, il n'a jamais été trempé dans du langage. Donc, ça va être compliqué d'accéder au langage. Par contre, si la surdité survient vers 4 ans alors que le langage est déjà mis en place, on n'aura pas du tout les mêmes problèmes.
Et à la naissance, alors on s'en aperçoit, comment de la surdité ? Quels sont les symptômes pour un bébé ?
Alors, les symptômes à la naissance, il n'y en a pas, j'ai envie de vous dire. Hein. Il n'y en a pas. C'est au bout de quelques jours qu'on peut s'en rendre compte. Il y a actuellement, et depuis déjà un moment, une campagne des campagnes de dépistage systématique de l'audition qui se font au 1er, 3e et 15e jour de naissance, qui permettent de dépister très tôt ce genre de surdité, en particulier les surdités de perception.
Et en Occitanie, voilà. Ça représente à peu près combien de cas ?
Alors, j'ai assisté récemment à la journée du dépistage de l'audition en Occitanie et ils avaient calculé qu'il y avait environ 81 nouveaux dépistages par an, ce qui ne semble pas énorme, hein, mais cumulé, voilà, ça fait quand même pas mal de monde.
Je vous propose une deuxième pause musicale.
Des aéroports à l'intérieur de moi. Je veux avoir du respect vis-à-vis des avions. C'est pour ça que je ne veux pas qu'ils pensent que je me moque d'eux. Je veux prendre soin de vous, les avions. Vous faire sortir de moi pour prendre soin de vous. Vous manipuler doucement. Ne pas claquer la porte trop fort. J'ai peur de vous avaler. Vous êtes le symbole du voyage. Je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous. Je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Ce qui me fait rire, c'est quand je dis à Olivier, c'est vrai que mon père va te vendre notre appartement ? Et qu'il me répond, oui c'est vrai. D'ailleurs, je ne suis pas content que tu aies fait des trous dans le mur. Ce qui me fait rire, c'est quand je dis à Thomas qu'on passera toute notre vie dans la rue et qu'on dormira sur sa veste et qu'on mangera les feuilles des arbres pour le petit déjeuner par terre dans la rue. Ce sera mieux que de manger le petit déjeuner à l'hôtel. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Comme je tiens à vous et que je vous aime beaucoup, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose. Jamais je me moquerai de vous, je ris pour autre chose. Je tiens à vous, je vous aime beaucoup. Et que je lui dis qu'on est tous les deux des enfants et qu'on s'amuse pendant que les parents ne sont pas là. Ce qui me fait rire, c'est Arthur qui imite la mère américaine qui rentre à la maison.
Honey, I'm home and I have beef jerky for you.
Ça me fait rire de faire dire des conneries aux gens. Connaissez-vous le patami des enfants ? La personne répète machinalement parce qu'elle ne comprend pas. Ça me met dans un état d'excitation. Connaissez-vous le patin informatique, la confiance ? Connaissez-vous la honte ? Connaissez-vous la boulgourine ? Pensez-vous que ma cousine en Angleterre a beaucoup de caractère ? Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je m'en pas de vous, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose.
Yeah, 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 la. Yeah, 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 la.
I don't love a new beat, I may not know so well what to stand up for. I got me don't know like me what the hell they fighting for. Now the man with the blame ring is further apart, but he do not know. You can't rule another's heart. You can't get a love alone.
J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits.
Oh, liberdade com joia e amizade até sem querer. Faz com que a vontade se instale sem saber. Com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver.
La grande vie nous a plongé dans sa commune. Dehors y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus. Solidarité, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté.
Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois.
De retour dans le studio Jean Orsi de Radio Nîmes avec l'accent pour évoquer cette Arrieda. Et je vais demander à Marianne donc un petit mot sur la stéréotypie, je crois, puisqu'elle avait envie de nous en parler.
Oui, en fait, la stéréotypie, c'est un groupe de punk rock qui, donc, peut-être ça vous évoquera quelque chose si je vous dis que certains de ces chanteurs participent à l'émission Le Papotin. Ils sont donc des personnes atypiques, effectivement.
Oui, alors on va revenir dans la surdité, ou plutôt les surdités, parce qu'on n'a pas fini d'en faire le tour.
C'est ça, on avait parlé des différents étages et des différents risques d'avoir une surdité. Il n'y a pas juste la localisation, ça peut évidemment être sur une ou deux oreilles, ça peut être avant le langage, après le langage, et même ça peut arriver aux personnes âgées, puisque ça s'appelle la presbyacousie, comme la presbytie, hein, ça vient avec l'âge. Et puis, il y a aussi le degré d'intensité, évidemment, parce que c'est pas la même chose d'avoir une surdité légère, moyenne, profonde, ou de ne plus avoir aucun reste auditif. Et évidemment, on a des surdités qui peuvent être aussi génétiques. En général, les surdités de perception sont souvent des surdités d'origine génétique. Et on peut avoir aussi des troubles associés, parce que ces anomalies génétiques peuvent générer des surdités, mais aussi des cécités ou d'autres difficultés de ce genre.
Très bien. Alors, on avait dit aussi qu'on parlerait de l'appareillage.
Ah oui, on avait évoqué...
Et en fonction de ces surdités.
Voilà, on avait évoqué...
Du degré de ces surdités.
C'est ça, exactement. Donc l'appareil de correction de l'audition, il peut être de deux types. Soit c'est un appareil de type classique qu'on appelle une prothèse, qui va amplifier les sons et qu'on va mettre derrière l'oreille pour amplifier ces sons. Ça, c'est pour les surdités légères, moyennes, voire sévères. Et puis dès qu'on arrive à des surdités profondes, on va procéder par implant, c'est-à-dire qu'il va y avoir une opération. Et je vous parlais tout à l'heure de la cochlée, ce petit escargot de l'oreille interne avec ces petites cellules ciliées qui sont déficientes. Eh bien, pour remplacer ces petites cellules ciliées, il y en a à peu près 16 000 des cellules ciliées. On va faire glisser ce qu'on appelle un porte-électrode à l'intérieur de cet escargot, avec en général 22 électrodes. Et imaginez qu'avec ces 22 électrodes, on va reconstituer une audition à la place de ces 16 000, pas forcément toutes, mais 16 000 cellules ciliées. Vous imaginez bien qu'on ne peut jamais restituer une audition parfaite.
Je me tourne maintenant vers Judy Carlo, en fait, qui accompagne les enfants particulièrement, qui est éducatrice.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le pôle enfant ? Et même deux mots, vous y avez droit.
Moi, j'en donnerai un petit peu plus que deux, d'ailleurs. Donc, le pôle enfant, le CESAD, accompagne en fait des enfants de 0 à 20 ans. D'abord avec le SAFEP. Alors, on a repris l'acronyme parce que c'est un peu compliqué. C'est le service d'accompagnement familial d'éducation précoce. C'est pour les enfants de 0 à 3 ans. Et ensuite, avec le SEPS, c'est difficile, service, le soutien d'éducation familiale et de scolarisation pour les enfants de 4 à 20 ans. Donc moi, je travaille plutôt avec le deuxième service. Et en fait, j'accompagne les enfants dans leur lieu de vie et leur lieu d'inclusion, c'est-à-dire l'école, les clubs de loisirs, de sport, les lieux de stage. Et je suis là au quotidien auprès de l'enfant, de sa famille, mais aussi auprès des enseignants avec lesquels j'aime travailler en partenariat, puisque c'est eux qui vont nous donner, qui vont nous informer sur les difficultés particulières de l'enfant. Et on va pouvoir faire de la remédiation cognitive ou scolaire avec eux, mais également aussi les aider dans l'apprentissage des codes sociaux. Parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas, en fait, quand on est normo-entendant, mais les codes sociaux s'apprennent aussi avec le langage. Et nos jeunes sourds ont souvent des difficultés de relation ou de compréhension de ce que font les autres ou ce que disent les autres. Donc on est là aussi pour les aider. Du soutien éducatif aussi, peut-être un peu plus qu'avant, avec des familles qui sont parfois dans le désarroi ou en difficulté. Et voilà, alors moi, cette année, par exemple, j'accompagne 8 enfants et j'en ai de 3 à 19 ans. Et ça va de la moyenne section de maternelle à l'IUT. Donc, un panel très large.
Et alors, ça se passe là comment ? Bon, vous les accompagnez dans la classe ?
Non.
Alors, à l'IUT, par exemple, ça ne doit pas être
non. Alors, à
très
l'IUT,
simple de...
Non, l'IUT, c'est vraiment en dehors du temps scolaire. En fait, on ne reste pas dans la classe. En maternelle et en école primaire, on va aller chercher l'enfant. On fait du lien avec l'enseignant, aussi avec les AESH, qui sont précieux parfois dans l'observation. Et puis, on prend l'enfant en individuel dans une salle à part. Et... j'allais dire, quand c'est possible, on travaille en anticipation parce que l'enfant va avoir des difficultés de langage et du coup un retard de langage, donc tout ce qui est compréhension des textes, des notions nouvelles, va être compliqué pour lui. Donc on va essayer de travailler en amont avec lui pour que, une fois que l'enseignant aborde le cours, il soit plus à l'aise. Mais on va aussi travailler après en reprise et vérifier que l'enfant déjà a tout compris et ce qu'il a compris. Voilà, parce que avec l'appareillage, les jeunes malentendants ou les jeunes sourds vont percevoir un message, mais qui n'est pas toujours juste. Et du coup, on est obligé de leur demander « qu'est-ce que tu as compris ?» pour vérifier qu'ils n'aient pas fait fausse route ou que ce soit confus ou qu'il manque des notions. Voilà.
Et en fait, ils font des heures supplémentaires un petit peu,
oui.
Non ? Donc ça doit quand même engendrer une fatigue supplémentaire ?
Énormément. Déjà une fatigue au niveau de la concentration, puisque sur un cours normal, il faut savoir qu'ils font de la suppléance motale à longueur de journée. C'est-à-dire que, comme me disait Marianne tout à l'heure, l'appareillage, c'est pas comme des lunettes. L'appareillage auditif va pas vous restituer un message à 100%. Il va y avoir des fois des manques au niveau des mots, des fréquences. Et donc, ils vont faire beaucoup de suppléance mentale, c'est-à-dire qu'ils vont deviner un peu ce qui se dit devant eux. Imaginez-vous dans un pays étranger, vous ne parlez pas la langue et vous essayez de comprendre, ou vous parlez mal la langue, vous la comprenez mal et vous essayez de comprendre le message avec des mots qui vous échappent, avec un discours qui va très vite. Vous essayez de deviner. À la fin de la journée, je pense que vous n'essayez plus de deviner parce que vous êtes fatigué. À l'école, c'est pareil. Et Et du coup, j'ai oublié le reste de votre question.
Non, c'était sur la fatigue, en fait, que ça engendrait.
Voilà. Oui, et ils ont... Alors, selon les enfants, on évalue leurs besoins, et c'est un besoin qui est évalué chaque année, et même en cours d'année. Hein. C'est un projet qui se fait vraiment avec l'enfant et la famille. Quand il est petit, c'est surtout avec les parents, mais quand il devient adolescent, il prend part à ce projet d'accompagnement. Et ça peut aller d'une heure d'accompagnement jusqu'à 4 ou 5. Et il y a aussi l'orthophonie en plus. Donc, ça, c'est des enfants voilà, qui ont une aide conséquente.
Donc, quasiment une heure de travail de plus par semaine.
Voilà. Voire plus, beaucoup plus. Puisque si j'interviens trois...
J'ai dit quoi ?
Une heure par semaine.
Pardon, par jour.
Par jour.
Une journée de plus par semaine.
Voilà, une journée de plus. Voilà. Et alors, c'est des enfants, quand ils sont petits, sont habitués. Donc, c'est vrai que ça semble beaucoup pour les gens, mais finalement, eux le vivent plutôt bien. À l'adolescence, quand ils ont d'autres priorités, ils commencent un peu à râler. Donc là, on peut aussi adapter. Et, mais c'est vraiment au cas par cas et selon leurs besoins et selon leur, je dirais leur moment de vie aussi, que ce besoin est réévalué.
Et sur la saisine, alors, en fait, bon, de l'association, là, comment ça se passe ? Bon, comment hein ? Donc, ça se passe pour le premier contact ?
Ah, pour le premier contact, donc, du coup, le diagnostic, pour reprendre un peu ce que disait Marianne tout à l'heure, le diagnostic est posé de la surdité. Les médecins ORL vont donner l'information aux parents, ce qui est souvent un moment très très délicat avec lequel on doit travailler très longtemps après. Et en présentant différentes solutions aux parents, c'est-à-dire que ce que les médecins expliquent aux parents, c'est que il va y avoir trois projets possibles, soit un projet d'éducation en LSF, hein, soit un projet d'éducation par l'oralisation, ou un projet mixte. Hein. Et donc les parents vont devoir monter un dossier MDPH pour demander une prise en charge sur un organisme spécialisé. Et puis faire surtout le choix de soit l'oralisation, soit la LSF, soit le projet mixte. Ce qui est toujours un choix souvent un peu cornélien, un peu difficile à faire pour les familles. Voilà, parce qu'il faut effectivement... pas plutôt la vie de l'enfant commence à réceptionner le fait que il y a un souci dans la communication, il y a toujours cette question de comment on va rentrer en contact avec son enfant et puis comment l'enfant va rentrer en contact avec son entourage, faire des amis, s'épanouir à l'école. Ça met en perspective en fait quel avenir va être possible pour cet enfant, sachant qu'il commence déjà dans des difficultés qui sont un peu inédites pour les parents.
Et sur le suivi, alors, comment ça se passe ? Il y a des rendez-vous avec le médecin, avec l'association, avec les familles ?
Donc, une fois que le dossier MDPH est déposé, les parents reçoivent une notification CESAD. Il y a une prise de contact avec l'institution. Le chef de service va recevoir l'ensemble des familles qui auront fait cette demande accompagnée soit de l'orthophoniste ressource, soit d'un psychologue coordinateur. On va recevoir la famille, essayer de comprendre les niveaux de difficulté de l'enfant et les besoins et les attentes de la famille. Présenter aussi notre association, nos modes de travail. Et puis, à l'issue de l'ensemble des entretiens, il va y avoir une commission d'admission qui va évaluer l'ensemble des dossiers. Et on va devoir créer des priorités en fonction des niveaux de difficulté, des réponses qui sont possibles pour l'enfant aussi. Et accueillir, on accueille à peu près entre 13 et 15 enfants par an, je crois, il me semble. Oui. Voilà.
En sachant que nous, on ne peut accueillir qu'à partir des surdités moyennes.
Oui, ça c'est très important.
Ouais, important à savoir.
Peut-être juste pour reprendre cette information que donnait Marianne tout à l'heure, les surdités effectivement se déclinent en différents niveaux. Il y a légère, moyenne. Moyenne, c'est déjà la voix projetée en classe par l'enseignant. La surdité sévère, c'est le niveau d'un aspirateur que l'enfant ne détectera pas à l'oreille. Et la surdité profonde qui peut aller de 90 à 130 décibels. Donc c'est le moteur de la tondeuse à gazon, voire l'avion au décollage que l'enfant ne perçoit pas. Et ce qui est très important, c'est que, ça a été dit déjà hein, tout à l'heure, mais avec les prothèses auditives, la récupération de l'audition n'est que parcellaire. Donc, pour pour aller dans le sens de ce que disait Julie tout à l'heure, même avec les prothèses auditives, les enfants ne vont percevoir qu'un texte à trous et vont être en permanence dans la devinette, dans la relation aux autres, dans la communication. C'est-à-dire que les prothèses auditives ne vont pas corriger l'audition comme des lunettes pourraient corriger la vue. Les lunettes vont donner une image très nette, très claire de ce que l'on peut voir. Avec les prothèses auditives, ça va rester très parcellaire. Et donc, ces enfants vont devoir en permanence être dans quelque chose de l'ordre de la suppléance mentale pour essayer de comprendre ce que l'autre va dire. Alors bien sûr, ils vont s'appuyer sur tout ce qui est lecture labiale, le contexte, les mimiques de visage pour essayer de décrypter. Mais il va y avoir toujours ce temps de retard dans la compréhension et qui du coup altère aussi leur participation à tout ce qui est vie de groupe. Et donc une des conséquences, on n'en a pas parlé tout à l'heure de la surdité, ça va être un sentiment d'isolement très souvent. C'est-à-dire que dans la cour de récréation pour les plus jeunes, ils vont être beaucoup dans le mode du faire et avec des entrées dans la relation un peu brutales des fois, parce que c'est le corps qui va jouer le médiateur de la relation. Au moment du collège, on a beaucoup de jeunes qui vont nous dire que dans la cour de récréation, le langage va prendre une autre dimension parce qu'on va être dans des échanges beaucoup plus matures. La blague qu'on ne va pas comprendre qu'un copain aura lancé au groupe, quand on va essayer de questionner ce qui a fait rire le groupe, on va s'entendre répondre « Non, mais c'est rien, laisse tomber, parce que la blague qu'on explique n'est pas marrante. » Et une fois, deux fois, trois fois dans la journée, plusieurs fois dans la semaine, ça finit par créer vraiment ce sentiment d'isolement qui fait que on a du mal à être en prise avec les camarades et à sentir qu'on fait partie du groupe. Or, faire partie du groupe, c'est vraiment le sésame de l'effort que fournissent tous ces enfants parce que ils ont envie de montrer qu'ils sont capables, comme les autres, d'arriver à être.
Oui, et moi je voulais rajouter aussi comme difficulté que ce sont des enfants qui arrivent à faire illusion, c'est-à-dire qu'ils parlent bien, on n'a pas du tout cette sensation et on ne peut pas comprendre tout l'effort qu'ils sont obligés de faire tout au long de la journée dans ce qui a été décrit par Julie et par Guillaume.
Je rebondis aussi sur ce qu'a dit Guillaume, c'est-à-dire qu'à l'Arieda, on organise des séjours et des sorties entre enfants sourds. C'est des moments justement qui leur tiennent à cœur parce qu'ils peuvent se retrouver entre jeunes qui sont dans la même situation de handicap et partager leur quotidien et la compréhension aussi est plus facile entre eux.
Je vous propose une troisième pause musicale.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar.
Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le cri, tu reviens.
Jogo da amarelinha e a vida quer durar. Tem um diamante no umbigo, cuidado pode quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Teu choro é uma lagoa e ela que eu vou me banhar.
Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le pli, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La 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 la
entendu. J'ai fait la sourde oreille, peur du silence imprévu. De dépendant appareil, y a comme un vide absolu qui n'a de pareil que le vide absolu. Sur un fil tendu, j'ai marché pour pas me perdre. Prise au dépourvu, chaque concert est un combat avec moi-même. Chaque concert est un combat avec moi-même. Comme une arène, fais-moi signe si j'ai les images mais plus le son. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière audition. Fais-moi signe si j'ai les images mais plus le son. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière chanson. Fais-moi signe, fais-moi signe, fais-moi signe. Je suis tout oui, non même je vous assure que chacun de vos cris, à chaque fois je les capture. Jamais je n'oublie, par peur qu'ils deviennent des murmures, des murmures. Face à vous je tremble, accroché au micro. Je sens mon corps se fendre et je retiens mes mots. Mes vertiges m'étranglent, peur de tomber de haut. Faites que je finisse ce morceau. Fais-moi signe si j'ai les images mais plus le son. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière audition. Fais-moi signe si j'ai les images mais plus le son. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière chanson. Fais-moi signe, fais-moi signe, fais-moi signe, fais-moi signe. Fais-moi signe si j'ai les images mais plus le son. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière audition. Fais-moi signe si j'ai les images mais plus le son. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière chanson.
De retour dans le studio Jorcy de Radio Nîmes avec l'accent, avec Marianne Le Floch-Bazin, avec Guillaume Valls et Julie Carlo. Alors on continue à évoquer l'Arrieda. Alors on parlait de l'accompagnement des jeunes enfants, mais ces jeunes enfants vont grandir, ils deviennent adultes. Et que devient alors l'Arrieda ?
Donc l'Arrieda dispose depuis plusieurs années maintenant du pôle adulte qui accompagne également les adultes sourds. Alors certains adultes faisaient déjà partie de l'Arrieda pour le CESAD, étaient déjà accompagnés. D'autres arrivent en cours de route. Et le pôle adulte, en fait, accompagne ces jeunes adultes dans leurs études. Il y a un dispositif. Alors, je ne pourrais pas vous donner les détails parce que ça dépend vraiment, en fait, de l'endroit où ils font leurs études. Parce qu'il y a des conventions avec l'Éducation nationale, le ministère de l'Agriculture, c'est un peu plus compliqué. Il accompagne aussi les adultes dans leur recherche d'emploi ou de formation. Ils ont un service, un SAVS, un service d'accompagnement à la vie sociale. Donc il y en a un dans les Pyrénées-Orientales et un dans le Gard. Et il y a le CIMES dans l'Hérault, et je n'ai plus l'acronyme, donc je ne pourrais pas vous dire, mais c'est à peu près l'équivalent. du SAVS, et enfin un service social dans le Gard qui aide les adultes sourds dans toutes leurs démarches administratives et sociales. Et il y a aussi le... Alors, ça ne fait pas partie du pôle adulte, mais il y a aussi le pôle formation, mais je laisserai mes collègues aborder le sujet.
Peut-être je vais ajouter quelque chose par rapport au pôle adulte, mais tu m'as perturbée avec ton histoire de pôle formation. J'ai presque oublié ce que je voulais dire. On est reparti de quoi ?
Service social.
Ah oui, non, je parlais de l'accessibilité. C'est-à-dire que le service adulte va aussi dans les entreprises ou à l'université pour justement sensibiliser les personnes à leur salarié qui est sourd ou à leur étudiant qui est sourd, de manière à savoir quel type d'adaptation on peut leur proposer pour leur faciliter leur vie professionnelle.
Avec aussi des interfaces de communication qui signent, qui font de la LSF et qui peuvent aider ces adultes sourds signants à communiquer avec le monde professionnel.
Oui, parce que là, du coup, il y a à peu près 400 personnes qui sont accompagnées sur le pôle adulte, il me semble, peut-être oui. même plus, voilà, et qui viennent de tout le territoire national. Donc certaines n'ont pas été éduquées à l'oralisation et fonctionnent uniquement en LSF.
Alors on enchaîne sur la formation, on avait dit, et puis peut-être particulièrement sur la formation en langue des signes, puisqu'on n'en a pas encore parlé.
Alors le pôle formation dispense effectivement des formations de langue des signes, un enseignement, ils n'appellent pas ça une formation, mais vraiment un enseignement à la langue des signes. C'est vraiment pour tout public. Mais c'est aussi pour nos jeunes qui, parfois, quand ils arrivent à l'adolescence, il faut savoir que la surdité appareillée, c'est une identité entre deux rives. C'est d'un côté les sourds, de l'autre côté les entendants. Et ils sont souvent dans un entre-deux identitaire que parfois ils ont besoin de combler en apprenant la langue des signes. C'est pas forcément que ça va durer. Mais en tout cas, à certains moments, ils ressentent ce besoin. Et donc, le pôle formation a été créé en particulier pour ça au départ. Et ensuite, effectivement, ça s'est élargi à tout un chacun qui souhaite avoir un cursus en langue des signes française, qui est une vraie langue, je le rappelle, avec toutes les caractéristiques d'une langue, et qui n'est pas juste un moyen de communication en plus, mais vraiment une vraie langue.
Oui, simplement, je crois que pour beaucoup de jeunes, rentrer dans la LSF, c'est aussi une façon de s'affirmer avec le handicap. C'est aussi une façon de montrer, de s'affirmer vis-à-vis de l'entourage par rapport à tous les efforts qu'ils ont dû faire avec l'oralisation. Et donc, souvent, ils accèdent aussi à la communauté sourde, signante de leur milieu de vie, quoi.
Et j'avais appris, alors est-ce que c'est vrai que la langue des signes était différente suivant par exemple qu'on soit donc en Espagne ou en France, ou que la langue des signes n'est pas la même ?
Alors la langue des signes n'est pas la même, mais en revanche, mettez un Espagnol et un Français qui ne connaissent rien à la langue, ça va mettre un peu de temps pour connecter. Mettez un sourd français, un sourd espagnol à parler ensemble en langue des signes, ça va très vite connecter. Hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent dans les langues des signes du monde entier, quand même.
D'accord, donc il y a quand même un espéranto de la langue des signes.
Ouais, j'irai pas jusque-là, quand même. Hein.
Alors l'Arieda, c'est également donc une administration, hein, avec des administrateurs et des besoins, je crois, en bénévoles.
Oui, c'est-à-dire qu'au niveau du conseil d'administration, on cherche un peu de sang neuf, de personnes qui ont envie de rejoindre notre mouvement associatif et puis de venir participer à notre aventure. Toutes les personnes sont bienvenues.
Je vous propose... allez-y.
Non, je voulais juste ajouter que effectivement, l'Arieda, c'est une association. Hein, c'est donc un conseil d'administration qui gère l'Arieda. Et évidemment, dans ce conseil d'administration, il y a en premier lieu des parents d'enfants sourds qui sont à l'Arieda. Pour un tiers, je crois, c'est obligatoire. Et après, on peut faire appel à tous les gens, effectivement, qui le souhaitent, comme le disait Guillaume. Et on voit bien qu'on est un peu face à une crise un peu de société par rapport à l'engagement, le bénévolat. Et toutes les bonnes volontés sont vraiment les bienvenues.
Je vous propose une dernière pause musicale.
J'ai un problème d'intégration. un don certain pour l'imperfection. Un jour sur deux, une grosse tête de con. Et je contrôle pas toujours mes pulsions. Je suis pas un robot multifonction. J'ai pas de raison de me jeter du pont. Bébé, je suis pas un des héros de films d'action. Et on a pas forcément la même opinion. On a pas que des atomes crochus. J'étais plus puits, t'es plus ébloui. T'es si tu t'es dit quelle peine cul. On s'est perdu de vue et t'es parti dans la rue. Puis on a rangé ça dans le tiroir de notre vécu. C'était pas du Disneyland. Et puis c'est tant mieux quand c'est trop mielleux. Souvent c'est douteux, ça mène au foireux. À 30 fous furieux. Mais je suis pas blasé, j'aime encore ce jeu. Et je t'aime bien quand même et tu m'aimes bien quand même. Oh, je t'aime bien quand même et tu m'aimes bien quand même. Et je m'aime bien quand même et tu t'aimes bien quand même. Et tu t'aimes bien quand même. Et je m'aime bien quand même. Qu'est-ce qu'on s'aime quand même. Oh yeah, qu'est-ce qu'on s'aime quand même. Oh yeah, qu'est-ce qu'on s'aime. S'aime quand même. Avec nos frustrations, on est tous dépendants du pognon. Il y a un grave problème de pollution, on peut le régler, mais non, non. Puis c'est pas tous les jours drôle comme facile à chanter. Ça donne envie de se barrer, de se battre ou bien de pleurer. J'ai du mal à respirer, vénère comme un nouveau-né. Pour m'exprimer, j'ai l'habitude de brailler. Ça me pose un problème de communication, à mes proches un problème de compréhension. Ce qui nous mène à cette situation où l'on perd toute motivation. J'ai un problème d'intégration, peu de résistance à la pression. Et je demande aucune compassion pour mes problèmes de digestion. Et je t'aime bien quand même et tu m'aimes bien quand même. Oh, je t'aime bien quand même et tu m'aimes bien quand même. Et je m'aime bien quand même et tu t'aimes bien quand même. Et tu t'aimes bien quand même. Et je m'aime bien quand même. Qu'est-ce qu'on s'aime quand même. Oh yeah, qu'est-ce qu'on s'aime quand même. Oh yeah, qu'est-ce qu'on s'aime, s'aime quand même.
Dans le studio Genre-ci de Radio Nîmes avec l'accent, avec le représentant de l'Arieda. Et j'ai une question que je n'ai pas encore posée. Bon, comment ça se passe donc en termes de financement?
Alors, concernant le CESAD, le CESAD est attribué annuellement un budget par l'ARS, l'Agence régionale de santé. En ce qui concerne le pôle, c'est plusieurs millions d'euros. Je n'ai pas les chiffres parce que je ne suis pas comptable, mais je sais que c'est assez énorme.
Sur l'Occitanie, hein, surtout le pôle Occitanie.
Oui, absolument, sur les cinq départements de l'ancienne région Occitanie-Est, quoi. En ce qui concerne le pôle adulte, c'est différent. Il y a une partie des services qui est subventionnée, mais il y a aussi une partie des services qui est tarifée, c'est-à-dire qu'il y a un paiement à l'acte, si vous voulez. Voilà. Je n'en connais pas beaucoup plus parce que ce n'est pas du tout dans mon métier. Donc, je ne pourrais pas vous en parler plus. Par contre, je peux vous dire que nous avons quelques besoins. En particulier concernant du matériel pour sensibiliser les gens à ce que c'est une surdité. Par exemple, on utilise des casques, des bouchons d'oreilles, ben ça on n'en a jamais assez. Des gilets vibrants pour certains, excusez-moi. Par exemple, pour assister à des concerts, les sourds avec des gilets vibrants, eh ben, c'est drôlement efficace, ça les fait rentrer beaucoup plus dedans. C'est très cher, un gilet vibrant. Donc, on n'a pas les budgets en fait pour ça. Donc, s'il y a des généreux donateurs, nous, on est entièrement d'accord.
Et est-ce que les collectivités territoriales participent un petit peu, hein, ou pas du tout ?
Écoutez, là, vous me posez une colle. C'est un truc.
Non, mais sur le petit matériel, sur les...
Je suis incapable de vous répondre.
Sur les déplacements, non, vous ne savez pas.
Ah non. Non, non, sur les déplacements, tout ça, c'est...
L'ARS.
Alors, on va peut-être évoquer les réussites, puisque bon, l'Arietta, hein, c'est avant tout donc une réussite.
Oui. Oui, oui, on a donc de nombreux enfants du CESAD ben, qui passent le bac. Cette année encore, tous ceux qui ont passé le bac l'ont eu, beaucoup avec mention. Donc ça, c'est très chouette. La plupart des jeunes continuent leurs études, que ce soit à l'université, dans des écoles préparatoires ou dans des IUT. On a certains jeunes dont on a des nouvelles qui sont kinés, qui sont radiologues, ingénieurs. Enfin, c'est toujours hyper agréable d'avoir de leurs nouvelles et de savoir que ben, ils vivent une vie apaisée, même avec leur handicap, et qu'ils font une belle route.
Très bien. Alors, il me reste à remercier d'abord les auditeurs et puis surtout les trois invités qui sont intervenus sur l'Arieda de façon très sincère, très chaleureuse. Et c'était très agréable, un moment très agréable. Alors, je vais leur donner le dernier mot, chacun un dernier mot. Marianne, vous commencez ?
Un dernier mot. Bah, écoutez, je vous remercie d'abord de nous avoir sollicité pour cette émission qui a été extrêmement agréable pour moi aussi, je pense pour mes collègues aussi. Et dire que cet accompagnement, ça marche. Voilà, on parlait de la réussite du bac et tout ça, mais on a aussi des enfants avec des CAP et tout ça. Et tout ce qui nous intéresse, c'est qu'ils puissent mener à terme leur projet.
Merci. Oui, simplement dire que ce qui caractérise le plus ces enfants, c'est une grosse capacité de travail. Et avant tout, que la réussite, c'est leur réussite. Parce que nous avons beau travailler dans la surdité depuis plusieurs années, devenir peut-être un peu expert de la question, ce que nous apprenons, c'est les familles qui nous l'enseignent et les enfants.
Moi, je dirais l'admiration. Ça fait 28 ans que je fais ce métier et je suis toujours épatée de ce que ces enfants sont capables de faire et de leur force.
Alors, on se retrouve dans un mois avec le foyer Hubert Pascal. Au revoir.